Comme toute mère qui marie son fils, la reine Isabelle avait les larmes aux yeux. Elle s'efforçait de prier Dieu, d'accorder à son enfant toutes les félicités, mais pensait surtout à elle-même et souffrait. Les jours écoulés l'avaient amenée à ce point où elle cessait d'être la première dans le cœur de son fils et dans sa maison. Non certes qu'elle eût ni pour l'autorité sur la cour ni pour la comparaison de beauté grand-chose à redouter de cette petite pyramide de velours et de broderie que le destin lui allouait comme belle-fille. Droite, mince et dorée, avec ses belles tresses relevées en chaque côté du visage clair, Isabelle, à 36 ans, en paraissait à peine 30. Son miroir, longuement consulté le matin même, tandis qu'elle coiffait sa couronne pour la cérémonie, l'avait rassurée. Et pourtant, à partir de ce jour, elle cessait d'être la reine tout court pour devenir la reine mère. Comment cela s'était-il fait si vite? Comment 20 ans de vie et traversée de tant d'orages s'était-il dissous de la sorte? Elle pensait à son propre mariage. Il y avait tout juste 20 ans, une fin de janvier comme aujourd'hui, et dans la brume également à Boulogne, en France. Elle aussi s'était mariée en croyant au bonheur. Elle aussi avait prononcé ses vœux d'épousailles du plus profond de son cœur. Savait-elle alors à qui on l'unissait pour satisfaire aux intérêts des royaumes? Savait-elle qu'en paiement de l'amour et du dévouement qu'elle apportait, elle ne recevrait qu'humiliation, haine et mépris, qu'elle se verrait supplantée dans la couche de son époux, non pas même par des maîtresses, mais par des hommes avides et scandaleux, que sa dot serait pillée, ses biens confisqués, qu'elle devrait fuir en exil pour sauver sa vie menacée et lever une armée pour abattre celui-là même qui lui avait glissé au doigt l'anneau nuptial. Ah, la jeune Philippa avait bien de la chance, elle qui était non seulement épousée, mais aimée. Seules les premières unions peuvent être pleinement pures et pleinement heureuses. Rien ne les remplace si elles sont manquées. Les secondes amours n'atteignent jamais à cette perfection limpide, même solide jusqu'à ressembler au roc. Ils courent dans leur marbre des veines d'une autre couleur qui sont comme le sang séché du passé. La reine Isabelle tourna les yeux vers Roger Mortimer, baron de Wigmore, son amant, l'homme qui, grâce à elle, autant qu'à lui-même, gouvernait en maître l'Angleterre au nom du jeune roi. Sourcils joints, les traits sévères, les bras croisés sur son manteau somptueux, il la regardait dans la même seconde sans bonté. « Il devine ce que je pense, » se dit-elle. « Mais quel homme est-il donc pour donner l'impression qu'on commet une faute dès qu'on cesse un moment de ne songer qu'à lui ?» Elle connaissait son caractère ombrageux et lui sourit pour l'apaiser. Que voulait-il de plus que ce qu'il possédait? Ils vivaient comme s'ils eussent été époux et femmes, bien qu'elle fût reine, bien qu'il fût marié, et le royaume assistait à leurs publics amours. Elle avait agi de sorte qu'il eût le contrôle entier du pouvoir. Mortimer nommait ses créatures à tous les emplois, il s'était fait donner tous les fiefs des anciens favoris d'Édouard II, et le conseil de régence ne faisait qu'entériner ses volontés. Mortimer avait même obtenu qu'elle consentît à l'exécution de son conjoint déchu. Elle savait qu'à cause de lui, certains à présent l'appelaient la Louve de France. Pouvait-il empêcher qu'elle pensât, un jour de noces, à son époux assassiné? Surtout lorsque l'exécuteur était là, en la personne de John Maltravers, promu récemment sénéchal d'Angleterre, et dont la longue face sinistre apparaissait parmi celles des premiers seigneurs, comme pour rappeler le crime. Isabelle n'était pas la seule que cette présence indisposa. John Maltravers, gendre de Mortimer, avait été le gardien du roi déchu. Sa soudaine élévation à la charge de sénéchal dénonçait trop clairement les services dont on l'avait ainsi payé. Officiellement, Édouard II était décédé par trépas naturel, mais qui donc, à la cour, acceptait cette fable? Le comte de Kent, le demi-frère du mort, se pencha vers son cousin Henri Torscoll et lui chuchota « Il semble que le régicide à présent donne droit de se pousser au rang de la famille. » Edmond de Kent grelottait. Il trouvait la cérémonie trop longue, le rituel York trop compliqué. Pourquoi n'avoir pas célébré le mariage dans la chapelle de la Tour de Londres, ou de quelque château royal au lieu d'en faire une occasion de kermesse populaire? La foule lui causait un malaise. Et la vue de Maltravers, de surcroît, n'était-il pas indécent que l'homme qui avait expédié le père fût présent en si belle place aux noces du fils? Torscoll, la tête couchée sur l'épaule droite, infirmité à laquelle il devait son surnom, murmura « C'est par le péché qu'on entre le plus aisément dans notre maison. Notre ami, le premier, nous en offre la preuve. » Ce « notre ami » désignait Mortimer, envers qui les sentiments des Anglais étaient bien changés depuis qu'il avait débarqué 18 mois plus tôt, commandant l'armée de la reine et accueilli en libérateur. Après tout, la main qui obéit n'est pas plus laide que la tête qui commande, pensait Torscoll. Et Mortimer est plus coupable assurément, et Isabelle avec lui, que Maltravers. Mais nous sommes tous un peu coupables. Nous avons tous pesé sur le fer lorsque nous avons destitué Édouard II. Cela ne pouvait finir autrement. Cependant, l'archevêque présentait au jeune roi 3 pièces d'or, frappées sur leur face aux armes d'Angleterre et de Hainaut, et chargées au revers d'un semis de roses, les fleurs emblématiques du bonheur conjugal. Ces pièces étaient les deniers pour épouser, symbole du douaire en revenus, terres et châteaux que le marié constituait à sa femme. Les donations avaient été bien écrites et précisées, ce qui assurait un peu messire Jean de Hainaut, l'oncle, auquel on devait toujours 15 000 livres pour la solde de ses chevaliers pendant la campagne d'Écosse. « Prosternez-vous, madame, au pied de votre époux, pour recevoir les deniers, » dit l'archevêque à la mariée. Tous les habitants d'York attendaient cet instant, curieux de savoir si leur rituel local serait respecté jusqu'au bout, si ce qui valait pour toute sujette valait aussi pour une reine. Or, nul n'avait prévu que Madame Philippa non seulement s'agenouillerait, mais encore, dans un élan d'amour et de gratitude, enserrerait à 2 bras les jambes de son époux et baiserait les genoux de celui qui la faisait reine. Elle était donc cette ronde flamande capable d'inventer sous l'impulsion du cœur. La foule lui adressa une immense ovation.
« Je crois qu'ils seront bien heureux, » dit Torscoll à Jean de Hainaut.
« Le peuple va l'aimer, » dit Isabelle à Mortimer qui venait de s'approcher d'elle.
La reine-mère ressentait comme une blessure. Cette ovation n'était pas pour elle.
« C'est Philippa la reine à présent, » pensait-elle. « Mon temps ici est achevé. Oui, mais maintenant peut-être je vais avoir la France. »
Car un chevaucheur à la fleur de lys, une semaine plus tôt, avait galopé jusqu'à York pour lui apprendre que son dernier frère, le roi Charles IV de France, se mourait.